Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Devi et de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blum. C'est toujours avec joie que je reçois Thierry Delopineau. Il a écrit un ouvrage sur le chanvre dans le Perche, un petit livre fort intéressant. Nous avions évoqué lors d'une précédente émission l'histoire du chanvre, en sachant qu'au début du XVIIIe siècle, Mortagne et ses environs représentait environ 50% de la production toilière. Et après la Révolution, ce fut l'effondrement aussi bien pour Mortagne que pour Bellem. Il avait régné donc dans le Perche un grand commerce à partir du chanvre. On dit Mortagne, capitale du Perche, mais sa réputation quant à la culture et au tissage du chanvre avait des raisons qualitatives, semble-t-il. Alors, je me demande ce qu'il faut en penser. Et je vous dis bonjour Thierry Delopineau. Dites-moi justement ce qu'on peut penser de cette production de chanvre à Mortagne et aux environs de Mortagne.
Bonjour Christiane Blain et merci de me recevoir à nouveau. Mortagne et sa région avaient une réputation que personne ne contestait quant à la qualité de sa production. Et il faut savoir que quand la Révolution française éclate en 1789, Mortagne et sa région exportaient outre-Atlantique 90% de sa production. Donc c'était quelque chose de très très important et ça avait des raisons techniques que je vais essayer d'évoquer en quelques mots. Cultiver le chanvre, c'est pas comme cultiver maintenant un certain nombre de cultures où on sème, on traite si nécessaire, ensuite on laisse faire la nature, le soleil et on récolte. Il y avait tout un savoir-faire très très important et que personne ne contestait. À tel point que Mortagne avait une place très très importante dans ce métier et ce qui a conduit à ce que finalement on parle des toiles de chanvre, on ne disait pas des toiles de chanvre, on disait carrément les Mortagnes, c'est dire sa réputation et son savoir-faire. Alors en fait, ce savoir-faire, c'était quoi? C'était d'abord préparer la terre. Il fallait que la terre soit... elle était tellement travaillée qu'elle devenait pulvérulente, un petit peu comme du sable, donc très très fine. Et les graines que l'on semait en 4 ou 5 jours levaient et ensuite la plante elle-même se développait.
Alors la main-d'œuvre, j'imagine, devait être familiale.
Oui, oui, tout à fait. Quasiment à tous les stades du processus, à savoir déjà au niveau des semailles.
Oui.
Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est essentiellement des petits clos. C'était cultivé essentiellement des petits clos qui faisaient quelques arts ou 10 arts, 15 arts au maximum. Donc, en fait, toute la famille participait.
À la cueillette, j'imagine.
Alors, la cueillette après, donc la plante pousse. Elle est plantée fin avril, courant mai, après les dernières gelées, parce que la plante toute jeune a, comment dire, une certaine fragilité et ne doit pas subir de gelée le matin.
Alors, quelle sorte de terrain, vous ne nous avez pas dit ça?
Alors, bon, ben, c'est la terre classique de la région, c'est pas du sable, c'est vraiment de la terre arable. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Mortagne doit sa réputation en partie quant à la qualité du produit fini, au fait que les paysans ne procédaient pas à un labourage, mais avec une bêche. Donc, en fait, le travail du sol se faisait à la bêche.
Donc, c'était extrêmement fatigant.
Voilà, c'était extrêmement fatigant. Et en même temps, ça explique pourquoi c'était toujours sur des surfaces relativement faibles. Alors ensuite, la plante levait en 4 ou 5 jours, et puis elle poussait. Et 2 mois et demi, 3 mois après, c'est-à-dire fin août, généralement à partir de la Saint-Louis, donc il doit se situer vers le 25 août, je crois, donc début septembre, on procédait à la récolte.
Mais alors, avant la récolte, est-ce qu'il faut beaucoup d'eau?
Non, c'est une plante qui n'est pas très exigeante en eau. Bon, il ne faut pas qu'il y ait une sécheresse forte, comme on a pu connaître cet été, mais sinon, elle n'est pas très très exigeante. C'est une plante très très rustique à tous égards, et qui est parée de beaucoup beaucoup de vertus, pour ne pas dire de toutes les vertus.
Alors, peut-être avant, pouvez-vous nous expliquer comment va se transformer le chanvre ? Parce que ce n'est pas la plante tout juste qu'on va récolter.
Non, tout à fait. Alors, en fait, on procède non pas à la coupe, mais à l'arrachage. Et donc, il y a des images où on voit des agriculteurs qui arrachent la tige et ensuite qui tapent les racines et la tige contre leurs sabots, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup les sabots,
oui,
pour dégager la terre qui restait prise dans les racines. Donc, c'était l'arrachage. Alors, ils mettaient ça en gerbe et ensuite, ils entreposaient ça pendant quelques jours avant de procéder à une opération qui est tout à fait essentielle, qui s'appelle le rouissage. Alors, le rouissage, c'est quoi ? C'est en fait immerger dans l'eau les tiges de chanvre de telle façon que l'enveloppe extérieure, qui est une sorte de gomme de mucilage, pourrisse et dégage les fibres textiles.
Ça, est-ce que ça pouvait se faire dans une mare ?
Voilà, ça se faisait dans une mare, alors dans un routoir et autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en existe encore. Et généralement, alors soit c'était des mares rondes, soit alors souvent quand elles étaient faites vraiment... parce que l'agriculteur était très spécialisé dans cette activité. Il creusait des mares et généralement, les mesures standards, c'était 6 par 8. Donc 6 mètres de large, 8 mètres de long. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y en a une tout près de chez moi et je pense que c'est parce que le village, qu'on appelait autrefois le village, qui est maintenant un hameau, la Drouinière, c'était un lieu de culture très très importante du chanvre.
Parce qu'il y avait des mares partout, en fait.
Il y avait des mares partout. Alors, quand il y avait des mares...
Pour les animaux.
Pour les animaux, elles servaient à tout et servaient également à rouiller le chanvre. Étant précisé qu'une fois que le rouissage était intervenu, c'est un pourrissement, en fait. Ce qui fait que ça rend l'eau très très polluée. Et du coup, les animaux ne pouvaient plus boire cette eau. S'il y avait des poissons, des grenouilles, tout ça mourait. Et d'ailleurs, ce qui posait un certain nombre de problèmes, parce que parfois, à une certaine époque, ça ne se faisait pas dans les mares, mais dans l'eau courante, des ruisseaux ou des rivières, ce qui entraînait une pollution très très importante et qui faisait mourir les poissons. À tel point que, notamment nos gens le retrouvent, mais à La Ferté-Bernard aussi, il y a eu un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris pour interdire le ruissage du chanvre dans la Mème et puis dans d'autres ruisseaux. Et à ce moment-là, n'était plus possible que le rouissage dans des mares.
Donc il y a d'abord le rouissage, ensuite.
Alors ensuite, on retirait, et il fallait que ce soit totalement immergé. Et donc on faisait une couche dans la mare, et ensuite on recouvrait avec des pierres, de telle façon que la plante reste bien immergée. Quand le temps du rouissage était passé, et là il fallait être attentif, parce que si on laissait trop longtemps... Il y a un pourrissement qui se produisait et qui détériorait la qualité de la fibre ensuite, et ce qui était très très compliqué et pénalisant pour l'agriculteur. Donc on laissait sécher et ensuite on enfournait ça dans des fours. Alors jusqu'au début 19e, date à laquelle a été inventé ou créé des fours à chanvre qui étaient spécialisés pour faire chauffer...
Et vous en avez vu des fours à chanvre ?
Alors il y en a beaucoup en Sarthe et très peu dans le Perche.
Et vous en avez quand même remarqué ?
Oui, il en existe encore et dans le Perche proprement dit, il n'y en a pas. Alors qu'il y en a encore beaucoup qui existent dans le Saônois et donc en Sarthe. Et il y a une explication historique à cela, c'est que la culture du chanvre a périclité à partir de la Révolution et surtout de l'Empire. Et donc, c'est une activité qui a perdu énormément de vitesse, provoquée par quoi ? Par, en fait, les guerres maritimes, d'abord sous la Révolution, mais surtout sous l'Empire, où là, le trafic transatlantique a été interrompu à cause de la guerre avec les Anglais, et les bateaux ne pouvaient plus traverser l'Atlantique. Donc, ce qui explique que l'on trouve encore pas mal de fours à chanvre spécifiques pour cette activité dans le Saônois, en Sarthe, alors que dans le Perche, il n'y en a pratiquement pas. Donc, jusqu'à l'invention de ces fours, on pratiquait le chauffage, en fait, dans des fours à pain, ce qui était beaucoup moins commode,
parce qu'il
y avait le risque que ce soit trop chaud, pas assez chaud, et donc, et puis il fallait enfourner par la gueule de l'entrée du four, alors que les fours à chanvre, d'abord, on pouvait en mettre beaucoup plus, et c'était beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Les tiges de chanvre pouvaient être manipulées de façon plus confortable, si je puis dire.
Mais en fait, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont nécessaires pour qu'on ait du chanvre, si je comprends bien.
Absolument. Alors après le chauffage, on passe à un autre processus, c'est le broyage. Et alors, avec ce qu'on appelle une brayeuse, alors qui est un appareil avec des dents, qui est en bois, comme un chevalet, et on montait et on descendait la partie supérieure, ce qui permettait de casser l'enveloppe et de dégager les fibres.
Ce sont les propriétaires de la ferme qui travaillent, le mari, la femme, comment
alors,
ça
le
se
mari,
passe ?
La femme et surtout les femmes, bien sûr, les enfants également. Et à partir de ce processus-là, tout ce qui va suivre était essentiellement une main-d'œuvre familiale.
C'est ça.
Et alors l'intérêt était double. C'est que d'une part, on faisait travailler toute la famille, et d'autre part, c'était en période agricole creuse, c'est-à-dire hors saison agricole. Et donc,
Tout le
monde pouvait participer sans avoir à se distraire d'autres travaux des champs. Voilà. Donc, après le broyage, à ce moment-là, ça fait quelque chose comme un fouillis, et on procède à ce qu'on appelle le peignage.
Alors, c'est pour peigner.
Avec un peigne, voilà. Alors, c'est une planche de bois sur laquelle ont été plantés des clous, donc en fer forgé, et qui dépassait, et ça permettait de peigner, un peu comme on peigne un animal ou autre.
Mais oui,
voilà. Et donc, ce qui fait que les fibres, à ce moment-là, sont alignées dans le sens de la longueur. Et alors, après ce processus, une fois que le chanvre est peigné, on procède au filage. Alors, le filage, c'est on dégage quelques fibres, et puis on les enroule, de telle façon qu'on arrive à avoir un fil comme une pelote de laine, vous voyez, donc un fil assez homogène.
Et de la grosseur de la laine aussi, alors ?
Un petit peu plus fin. Et en fait, c'est ce qui va ensuite servir au tissage.
Faire des torchons.
Les torchons, les draps, les serviettes, enfin tout le linge de maison, les sacs, les toiles, mais aussi les ficelles, les voiles pour bateaux. Ce sont des bouchers très, 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 très importants. Une variété de produits finis très importante.
Et est-ce que vous savez combien de temps il fallait, par exemple, pour faire un drap ?
Alors, une personne m'a montré des torchons et des draps. Alors, en fait, ça ressemble un peu aux draps de coton qu'on voyait autrefois, avec la couleur écrue, ou les draps de lin aussi, c'est-à-dire, en fait, blanc cassé. Et alors, c'est assez rugueux, et le chanvre avait la réputation d'être un tissu ou une toile très très rugueuse et pas très agréable à porter.
Donc pour des draps, c'était pas très bien.
Alors pour des draps, c'était pas terrible. Mais enfin, au fil des lavages, autrefois, on lavait de façon assez musclée et autre, et donc ça usait un petit peu la fibre, ce qui fait qu'à ce moment-là, il devenait plus doux.
Donc qu'on trouve maintenant doivent être agréables, finalement.
Ce qu'on trouve maintenant doit être agréable, mais de toute façon, si dans le cadre du processus de la fabrication, on pouvait très bien traiter la toile. D'abord, déjà, au niveau du fil lui-même,
oui.
Et ensuite, au niveau de la toile, on pouvait la traiter pour qu'elle arrive à une douceur suffisamment forte pour que ce soit agréable à porter. Et on arrivait même à faire des chemisiers, et notamment les négociants de Mortagne avaient offert à la reine de France deux chemisiers. Alors, ils avaient travaillé spécialement pour arriver, et alors on disait que finalement, le tissu arriver à être aussi doux que le velours, ce qui est vraiment un très très beau compliment, que la reine avait beaucoup apprécié, et que c'était Catherine de Médicis, et que du coup, à la cour de France, elle avait lancé la mode. Et ensuite, il était de très bon ton d'avoir des chemisiers en chanvre, et puis comme souvent dans la mode, les choses qui sont appréciées, ça finit tout un chacun, et même le peuple se mettait à porter des chemises en chanvre pour suivre l'exemple de la reine.
Bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Thierry de Lopineau et nous évoquons le chanvre. Nous avons, dans une première partie, vu comment on récoltait le chanvre, comment on le travaillait. Et maintenant, j'aimerais bien que vous expliquiez, est-ce que c'est seulement dans les campagnes qu'on va s'occuper du chanvre ou peut-être aussi dans les villes? Et je pense à Mortagne, puisqu'il y avait certaines productions qu'on appelait les Mortagnes, comme vous nous l'avez justement dit.
Oui, alors votre question est tout à fait pertinente, en ce sens que bien sûr, le chanvre, il se cultivait dans les campagnes, mais ensuite il se travaillait pour parvenir jusqu'au produit fini, également dans les villages, les petits villages, les villages d'une certaine importance, et également dans les villes comme Mortagne, Nogent-le-Rotrou, La Ferté-Bernard. Alors en pratique, des négociants pouvaient s'approvisionner en chanvre dans les campagnes, alors généralement soit sous forme d'étoupe, soit plutôt sous forme de fil. Et ensuite, ils faisaient travailler chez eux un ou plusieurs tisserands ou eux-mêmes travaillaient. Et la particularité, c'est qu'en fait, le travail du chanvre devait s'effectuer dans des endroits où il devait y avoir un certain degré d'humidité. Et donc, ça veut dire qu'en pratique, le plus souvent, c'était en sous-sol. Et si vous prenez, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de Mortagne, la rue des Déportés, en remontant la rue, vous voyez tant à gauche qu'à droite une succession de maisons qui manifestement étaient autrefois des maisons des tisserands. Et vous avez à l'extérieur une ouverture qui permet de déboucher dans un sous-sol entièrement ou plutôt semi-enterré. Et c'est la caractéristique essentielle. Et vous retrouvez cette caractéristique architecturale, si je puis dire, également dans les villages.
Alors, moi j'ai une question aussi. Quand les gens faisaient leur champ, en quelque sorte, quel était le pourcentage que pouvaient obtenir ceux qui, finalement, travaillaient comme dans la rue des Déportés? Parce qu'ils achètent le produit brut et ils en font des produits qui vont s'acheter.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez réussi à voir comment, quel pourcentage on pouvait gagner en travaillant sur ce chanvre qui a été récolté?
Oui. Alors là, je ne peux pas vous répondre de façon précise. Ce que, par contre, je peux vous dire, c'est qu'on a calculé ce que représentait pour un agriculteur qui, lui, était de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire il semait, il cultivait, et ensuite il allait jusqu'au tissage. Bon, en allant, en utilisant la main-d'œuvre familiale, ça permettrait d'accroître ses revenus nets à peu près de 25%, ce qui est vraiment important.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que pour les négociants qui, avant de vendre, acheter le produit brut et qui ensuite le tissait et puis le vendait, je ne sais pas ce que ça représentait. Mais à mon avis, c'était au moins ça et vraisemblablement même plus. Et dans Mortagne, il y a un certain nombre de maisons. J'en ai visité une récemment qui était à vendre, où il y a un grand portail d'accès avec juste derrière le portail à double battant une sorte de puits et qui en fait débouchait sur une cave, mais qui était immense, qui était très très importante, même plus grande que beaucoup de sous-sol de château. Et vraisemblablement, dans ce sous-sol, il devait y avoir un certain nombre de métiers à tisser. Et donc, le négociant vendait, bien sûr, peut-être la production qu'il achetait par ailleurs, mais aussi, et peut-être même surtout, la production qui émanait directement de son activité. Donc, bien évidemment, le travail du chanvre jusqu'au produit fini, final, n'était pas l'apanage des seuls agriculteurs, mais aussi celui d'un certain nombre de tisserands et de négociants qui s'occupaient aussi, qui faisaient travailler chez eux des tisserands pour obtenir des produits finis.
Alors vous citez Mortagne, vous citiez également la campagne. Alors on disait qu'il y avait une seule pièce à vivre dans les maisons. Comment ça pouvait se passer? Est-ce que ce travail tantelière, je dirais, puisque c'est un peu chercher les fils, etc. Ce travail, est-ce qu'il avait lieu dans la pièce où on vivait, ou bien est-ce qu'il y avait une pièce qui était quand même réservée, alors qu'on dit qu'il n'y avait qu'une seule pièce dans ces maisons? Et moi, j'ai visité une maison rue des Déportés, on m'a dit que c'était la seule pièce qui était dans la maison. Alors, est-ce que c'est dans la campagne ou en Mortagne? Vous avez d'autres éclairages à ce propos?
Alors, il est certain que ce qui concerne le filage, c'est-à-dire transformer l'étoupe en fil,
voilà, c'est ça.
Ça se faisait autour du feu. Et là, il n'y avait pas d'inconvénient particulier avec le risque, avec un maintien d'une humidité importante. Là, le problème ne se posait pas. Le problème se posait pour l'humidité et éviter que les fils ne se cassent au moment du tissage proprement dit. Donc, en fait, le filage, se faisait autour du feu, le soir, à la veillée, très très souvent.
Et on voyait assez clair, parce que c'était la bougie.
Les chandelles, oui, mais c'était possible. Je sais que dans les récits historiques, on voit ça, et on disait qu'une bonne partie du filage se faisait autour du feu, mais il pouvait se faire aussi à l'extérieur. Alors par contre, ce qui concernait le broyage, le peignage, très souvent, ça se faisait en extérieur. Parce qu'en fait, ça provoquait une poussière importante.
Et
faire ça dans un lieu clos, ça provoquait des soucis sur le plan hygiène. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai évoqué dans mon livre, dans la deuxième édition, où ce problème de l'hygiène et des conséquences sanitaires provoquées par l'inhalation des poussières était quelque chose d'important.
Alors justement, est-ce que on a retrouvé des rouées, par exemple, dans les maisons ? Est-ce que on a trouvé des rouées dans la seule pièce qui existait, ou bien il y avait une autre pièce ?
Alors les rouées, c'était dans la pièce à vivre. Alors que le métier lui-même, comme je l'ai expliqué, ça exigeait une humidité importante, et donc c'était toujours en sous-sol. Et les métiers à tisser étaient toujours en sous-sol. Par contre, les rouets, eux, étaient dans la maison, dans la pièce à vivre.
Alors justement, est-ce que vous vous êtes renseigné sur le prix de loyer pour un tisserand indépendant ?
Alors, pour un tisserand indépendant, bon, il y en avait beaucoup qui étaient chez eux, dans les campagnes, dans les fermes. Donc là, le problème ne se posait pas. Sinon, non, j'ai pas des chiffres. Mais la location, c'était trois mois de travail pour payer son loyer.
Oui, c'est ça. Ce qui représentait peut-être 25% du revenu de celui qui travaillait.
Oui, là, je n'ai pas de chiffres précis, donc je ne voudrais pas dire de
oui.
bêtises.
Alors, les produits finis, parce que nous avons commencé un petit peu à en parler, vous avez évoqué les draps. Est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on pouvait travailler ? Et est-ce que vous-même, vous en avez vu ? Et dans quel état était-il ?
Alors, j'ai vu du linge de maison, j'ai vu du drap. Mais alors bon, ça a été fabriqué sans doute à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est des choses relativement précieuses. Et donc,
ça se vend maintenant à prix d'or, j'imagine.
Oui, ça se vend à prix d'or, et déjà pour en trouver. Alors, on retrouve plus facilement du lin, mais du chanvre, de la toile de chanvre, c'est pas évident. Mais c'est vrai que le panel de tout ce qui était fabriqué à partir du chanvre est très très important, très très important. Alors, c'était la graine déjà, donc qui servait pour les animaux essentiellement dans la oisellerie, mais qui avait un pouvoir énergisant important, ce qui fait que c'était très apprécié. Bon, il y avait les toupes. Qui servait à beaucoup d'usages, et notamment, on n'y pense pas beaucoup, mais à calfater les bougies. Ça servait aussi à calfater les bateaux, et ça, c'était quelque chose de très, très important. Vous savez, les bateaux, entre les planches, pour assurer l'étanchéité, il fallait boucher avec de l'étoupe. Et l'étoupe est d'ailleurs toujours utilisée par la plomberie. Alors, bien sûr, c'était tout ce qu'il y avait comme cordage, les ficelles. Et là, d'ailleurs, dans un catalogue qui a été retrouvé de la Fête des Bernards, on voit le nombre de variétés de liens en chanvre tout à fait extraordinaire.
Par exemple, j'imagine qu'il y avait les cordières.
Il y avait les cordières. Alors, les cordières servaient pour les religieux aussi, pour les premières communions, pour les magistrats. Et à la Révolution, compte tenu du fait que tous les ordres religieux ont disparu ou ont été dissous, c'était un marché relativement important et qui a disparu du jour au lendemain.
Oui, bien sûr. Et alors, je dois dire que c'est les cordes blanches, donc pour les religieux, mais il y a aussi beaucoup de ficelles, j'imagine,
tout à fait.
Qui pouvaient être faites. Est-ce que vous en avez vu aussi des ficelles en chanvre ?
Alors, j'en ai vu, mais de nos jours, ce n'est plus tellement utilisé. Ce sont d'autres matériaux. Maintenant, les ficelles, et tout, dans l'agriculture, c'est synthétique, quoi. C'est à base de plastique. Alors, il y a eu une époque aussi où le sisal servait pas mal. Donc, il y a des produits de substitution. Mais ça existe encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le chanvre avait une résistance extraordinaire, comparable au fil d'acier, s'il y avait une section.
Oui.
Voilà, ce qui est tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, dans les mines, au 19e siècle, avec la révolution industrielle, quand on a commencé à creuser des mines en sous-sol pour extraire le charbon, tous les cordages étaient en chanvre. Et ça avait une très très grande résistance, tout en ayant une certaine élasticité.
Alors, effectivement, nous connaissons tous la célèbre Corderie, qui est magnifique à Rochefort.
Tout à fait.
Et là, on voit que c'était un vrai travail avec les ouvriers. Enfin...
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des corderies étaient près des ports, en fait.
Voilà, c'est ça.
À part deux ou trois exceptions près. Donc, Mortagne et sa région étaient relativement peu spécialisées dans ce domaine-là, mais au moins à usage domestique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le chanvre, avant d'être commercialisé à l'extérieur et faire l'objet d'un vrai commerce, dans un premier temps, c'était une production locale pour assurer les besoins locaux.
Ah oui, d'accord. Alors, justement, on parle de corderie, mais on parle aussi de ficellerie.
Tout à fait.
Alors, ces ficelleries, dites-moi trois mots.
Alors, les ficelleries, c'est un cordage réduit, quoi, donc qui permet d'arrimer un certain nombre de choses et de porter des choses, mais pas très très lourdes, quoi, parce que dès qu'il faut une certaine résistance, à ce moment-là, c'est plus une ficelle, mais un câble.
Oui. Alors justement, il y a peu de villes pour les ficelleries. Je pense à Abbeville, par exemple. Vous en connaissez d'autres villes ?
Alors, je crois que dans le Périgord, il y en a une aussi, dont le nom m'échappe. Mais sinon, c'était surtout des corderies.
Oui.
Et qui devaient avoir une petite activité de ficellerie, puisque c'est le même processus.
Je pense qu'il y en avait à Paris, des ficelleries.
Ah, bah écoutez, je l'apprends.
Mais je pense aussi à autre chose de très important, ce sont les voiles pour la marine. Est-ce qu'on arrivait avec du chanvre à faire des voiles ?
Mais les voiles étaient essentiellement en chanvre. Et quelqu'un qui dessine des BD, qui s'appelle Pellerin, qui est breton, et qui expliquait, et d'ailleurs c'est cité dans mon ouvrage, il disait « un navire, c'est une cathédrale de bois et de chanvre ».
Ah,
de
oui.
Bois parce que la coque est en bois, et de chanvre parce que les cordages, et ça représentait des kilomètres le cordage, le poids des voiles était quelque chose aussi de très très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les, compte tenu du fait que les bateaux évoluent dans un milieu assez agressif, hein, le milieu salin, tous les 2-3 ans, il fallait changer les cordes,
ah
les
oui,
cordages.
Ah oui, donc c'était un bon rapport,
et puis, et calfater la coque. Donc en fait, c'était un marché qui se renouvelait très régulièrement et qui donc appelait constamment au réapprovisionnement en chanvre.
Alors je pense aussi à la guerre. Est-ce que le chanvre comptait aussi beaucoup ?
Alors la guerre pour arrimer les canons, et notamment sur les navires, parce qu'il y avait toujours un recul important quand le canon... quand le coup partait, il reculait brutalement en arrière et à ce moment-là, il était arrimé par des cordages et qui étaient en chanvre. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres usages et notamment sur le plan agriculture. Si on prend juste la production pour les besoins des agriculteurs pour ce qui est le bétail, les longes et autres, il y a une variété de longes différentes qui sont en chanvre et c'est tout à fait étonnant de voir la diversité de tous les produits fabriqués avec le chanvre.
Eh bien, un grand merci Thierry Delopineau. Je pense que nos amis qui nous écoutent auront envie de lire votre ouvrage « Le chanvre, une richesse oubliée » à Mortagne-au-Perche et sa région, 16e au 10e siècle. Un grand merci à vous. À bientôt pour le prochain ouvrage.
Merci beaucoup Christiane Blin pour votre accueil et pour ce dialogue.